Eh oui, Charles Aznavour, sa chanson « Qui ».
Quelle chanson émouvante, c'est votre proposition, Anne-Marie Aubin.
Bonjour Hélène.
Bonjour
oui,
Anne-Marie.
C'est mon choix.
Oui, oui, on comprend un peu pourquoi.
C'est ça, ça, vraiment ça ouvrait très bien au livre dont je vais parler aujourd'hui, parce que on se demande souvent qui va être là après nous.
Mm-hmm.
Et c'est une question que se pose Simon Roy, l'auteur de « Ma fin du monde » qui vient de paraître chez Boréal. C'est un livre de 129 pages. Et moi, j'avise toutes les gens, c'est, je ne vais pas parler aujourd'hui d'un livre triste. Je dirais que j'ai intitulé ma chronique « Écrire pour rester vivant » parce que quand on sait que l'échéance est proche, il y a deux attitudes. Ou bien on se ferme, ou au contraire, on met le...
On s'ouvre.
On vit à plein, c'est ça. Alors, c'est le cas de Simon Roy. Donc, je le présente pour les gens qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui vient de la région de la Naudière, qui est né en 68, qui a étudié à l'Université de Montréal et qui a consacré son mémoire à Alain Grandbois. Puis, il est devenu prof au cégep Lionel Groulx. Et puis, il s'est impliqué dans toute l'organisation du prix littéraire des collégiens. Et moi, en tant que prof de cégep, je l'ai rencontré à maintes reprises parce que je participais avec toujours un étudiant qui représentait notre cégep. Et le concours, c'est de finalement aller débattre ensemble de 5 titres en lice. Et chaque étudiant arrive avec le résultat de son cégep. Puis lui, il était un excellent animateur, un très, très grand lecteur et aussi ben, quelqu'un de très érudit. Puis pendant ces années-là où il était au prix des collégiens, il avait entre autres publié « Ma vie rouge Kubrick », qui s'est mérité le prix des libraires en 2015.
Oui, c'est peut-être après, hein, son roman le plus connu, le plus populaire quand on pense à Simon Roy.
Oui, puis aussi fait par un autre qui est paru il y a un an seulement. C'est sur toutes les faussaires dans le domaine des arts visuels. Donc, un passionné de lecture, d'écriture, à qui arrive un drame. Le 22 février 2021, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du cerveau. Et bon, il a l'espoir que tout va bien aller. Alors, il va suivre des traitements de chimiothérapie. Alors, bien sûr, quand on a ça, il n'y a pas beaucoup d'issues, mais son médecin, son oncologue est très, très, très optimiste. Puis, plus tard, il va avoir d'autres examens qui vont montrer que la tumeur s'est déplacée ailleurs dans le cerveau. Mmh. Et là, va atteindre une partie du cerveau qui touche le langage, la lecture et l'écriture, c'est sa vie. Alors donc, il va...
Quelle tragédie!
À trois reprises, il va réapprendre à parler, réapprendre à écrire avec des petits livres d'enfants, là, une orthophoniste, un psychologue, un médecin, tout ce que vous voudrez. Il témoigne dans ce livre d'une fureur de vivre, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il parle, oui, très peu de sa maladie et du cancer, c'est dans l'introduction, mais après ça, il est question de tout ce qui l'intéresse, puis tout ce qui le passionne à travers des faits réels qu'il associe à sa situation à lui. Donc, par exemple, je dirais que c'est un livre qui réunit 38 fragments, des petits qui peuvent avoir 10 lignes, mais d'autres qui peuvent avoir quelques pages. C'est pas des textes très longs. Et entre les fragments, il y a quand même des liens. À un moment donné, il commence à parler de son oncle Michel. Il va en parler à un autre endroit, un troisième endroit. La guerre des mondes de Orson Welles. Bon, ça, c'est un texte de théâtre qui était paru à la radio dans lequel il y avait eu un canular, c'est-à-dire qu'il y avait un homme qui venait annoncer un bulletin spécial et c'était toute une fiction pour croire qu'il était venu des monstres, des martiens sur Terre. Et il y a des gens qui ont cru à ça. Et ils ont paniqué complètement. Et lui, il compare la panique des gens devant quelque chose d'inattendu par rapport à peut-être la mauvaise nouvelle qu'une personne apprend quand on la condamne, comme c'est son cas. Il parle de gens réels, de faits réels, avec des dates, des lieux, des noms. Par exemple, Claude Valade, qui est une chanteuse, avec son père, qui était agent d'artiste, puis Marcel Béliveau, ils vont lui faire une blague. Et il raconte ça en 2-3 épisodes. Donc, les fragments vont parler, pas à la suite l'un de l'autre, mais au fil des pages, de certaines thématiques qui lui sont chères. Donc, la peur, ensuite, la croyance, la foi, l'espoir et la vie, le bonheur, je pourrais dire ça.
C'est comme un kaléidoscope, mais est-ce que ça se lit bien? Est-ce que ça se suit bien, ouais?
Oui, oui, c'est vraiment facile à lire parce que c'est des petits textes et c'est très bien écrit, même s'il nous dit dès les premières pages qu'il va faire tout ce qu'il peut pour bien écrire, mais il se classe comme un étudiant secondaire 5 moyen, quelque chose comme ça, mais c'est pas du tout le cas, là. Et c'est qu'au fond, j'imagine que ça demande énormément d'efforts, ce qu'il
fait. C'est un littéraire, de toute façon, cet homme, malgré tout. Puis j'imagine qu'il a été bien appuyé par la maison d'édition Boréal.
Oui, puis par sa conjointe, semble-t-il, qui l'aide beaucoup. Et je pense que le médicament qu'il prend, qu'il appelle le décadron, c'est comme une drogue qui pousse l'énergie. Ça fait qu'il ne dort pas beaucoup et il écrit la nuit. Et puis, bon, ben malgré son cerveau, ben il fait des liens, il parle de ses peurs, ses angoisses, ses rêves, mais jamais trop sans parler tout le temps au jeu. Ça tient de l'essai, des carnets intimes, je dirais d'un recueil de textes à sa manière à lui, dans un genre hybride. Et on voit l'importance de l'art dans la vie de cet homme et dans la vie tout court pour passer à travers les moments difficiles, la musique, le cinéma, la lecture, l'écriture. Alors, il fait référence à des textes qui l'ont, ou des films, ou des pièces de musique qui l'ont ému, qui l'ont bouleversé.
Qui l'ont nourri aussi?
Oui, puis par exemple, il parle de Stephen King. S'il y en a un qui sait transmettre la peur sous toutes ses formes, bon, ben, il s'intéresse à ça. Puis là, il va faire des liens avec la réaction des gens face à quelque chose d'épeurant, de la terreur, le tragique. Et un peu comme sa maladie, mais aussi, il va parler de la pandémie. Puis pourquoi des gens, suite à quelque chose d'inconnu comme ça, se ruent sur du papier de toilette, par exemple.
Ouais. Bon,
alors, des fois, c'est amusant aussi, comment est-ce qu'il nous présente les choses. Alors, je veux pas que les gens pensent que c'est un livre triste, là. Non, 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 pas du tout. Jamais, jamais mélodramatique, jamais larmoyant. C'est émouvant, parce qu'on sait tous qu'on va passer par là. Mais la conscience avec laquelle il parle de la fin de sa vie, du gouffre qui est à côté, sans savoir c'est quand, mais en même temps, il veut bien organiser ça. Puis il dit que c'est le seul avantage, c'est qu'il peut préparer tout ça, ce que les gens ne peuvent pas toujours faire. Et il y a un chapitre sur la croyance, quelques chapitres, en fait, quelques fragments, où il va dire, par exemple, que, je le cite, « Depuis le milieu du 19e siècle, on assiste à l'émergence d'un mouvement de pensée qui consiste à ne croire qu'en ce qui peut être observé, prouvé, validé par l'expérience scientifique. » Ben, c'est comme une opposition par rapport à tout ce qui est mystique dans la vie. Puis quand tu deviens malade comme ça, que tu cherches le sens de ta vie, tous les gens que je connais qui sont des mourants comme ça, vont devenir un petit peu plus mystiques, vont essayer de trouver un sens à ce qui leur arrive.
Il y a une quête spirituelle là, qui s'installe.
Exact. Et sans être dans la religion, religion.
Non, ça n'a rien à voir.
Non, pas ça du tout. Alors il dit, je le cite encore, « On observe parfois chez les personnes âgées que la croyance et la crédulité s'entrecroisent. Il semble aller de même chez certaines personnes frappées d'une maladie incurable et qui se savent proches de la mort. Penser à sa fin prochaine, se demander de loin en loin s'il y a un autre monde après, pour dire la vérité, j'y songe chaque jour, plusieurs fois. » Alors, il raconte différentes situations où il parle de ça avec des amis, puis il se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent des choses de l'ordre du mystique, inexplicable. Et au lieu de dire que c'est des folies, lui, au contraire, il
s'ouvre
donne
à
beaucoup
ça.
D'exemples. C'est très, très intéressant ce qu'il cite. Là. C'est pas du tout, là, comme il dit, là, moi, j'ai pas de temps à perdre à inventer des histoires. Là, ce que je vous dis là, ça m'a été raconté. Et entre autres, il y a un très beau chapitre sur son oncle Michel, qui était guérisseur, sans le savoir. Il savait arrêter le sang, il savait calmer la douleur. Et il raconte quelques anecdotes, quelques faits vécus autour de ça. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle toujours à nous, les lecteurs, qu'il a accumulé au fil des ans, comme si on était tous en train de l'écouter. Et il nous parle au-dessus. Exemple, vois-tu, cher lecteur, j'amorce l'écriture de cet ouvrage précisément le 22 février 2022, soit un an pile après ce qui a bouleversé ma vie, une révolution de 365 jours depuis qu'un cataclysme est venu jeter hors de son orbite mon cerveau désormais déboussolé.
On est encore plus dans le coup, là, on est complice avec.
C'est ça, et là, très souvent, il parle au lecteur, cher lecteur, chère lectrice, je sais qu'ici tu vas penser ça, mais c'est pas ça. Alors, c'est très intéressant. Et puis, on voit en fait que. Et il a décidé que ce serait sa dernière publication. Et puis aussi, il parle du malaise qu'il y a de vivre avec ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit à une personne qui va mourir? Alors lui, il veut s'entourer des gens qui sont ses amis, ses amours. Il veut célébrer la vie chaque jour. Et puis on le sent que pour lui, tout prend une intensité parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il voit cette personne-là. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a toute la peur de l'inconnu. Mais en même temps, ben, on apprivoise ces choses-là.
C'est comme s'il nous réapprenait à vivre d'une certaine façon, puisque lui, ses jours sont comptés.
Tout à fait. Je dirais que c'est un livre pour nous apprendre à mieux vivre. Moi, à la lecture de ça, j'ai dit oui, il faut ralentir, il faut profiter, il faut choisir les gens qu'on rencontre, les gens qu'on fréquente, il faut savoir les apprécier. Je dirais que c'est un ode au bonheur, un hymne à la vie. Et c'est souvent comme ça chez les gens qui savent que leurs jours sont comptés. Et puis, comme il dit, un jour, ça ira plus. Puis là, j'ai demandé de l'aide médicale à mourir.
Ah oui.
Ben, je crois que tout ce temps qui se passe, ben, les arts, l'amour, l'amitié, le bonheur, c'est ce qui le nourrit. Et tout prend des proportions différentes. Et ça fait réfléchir vraiment beaucoup sur notre vie. Ça nous fait du bien, ce livre-là. Alors, je le dis parce que les gens peuvent penser qu'il va parler de sa maladie tout le temps. Non, non, non. Il y a 3 pages au début où il parle de ça. Puis après, il parle d'Orson Welles, de Stephen King, des croyances que des gens ont vues, des espèces d'ovnis au-dessus d'une usine à Joliette, la Tom Tar, je crois. Puis comment ces gens-là, justement, ils ont foi en ce qu'ils voient et pour d'autres choses ne l'ont pas. Alors, il y a tout ça qui est intéressant, la réaction des gens, comment les gens réagissent à tout ce qui nous est pas connu. Alors, donc, chapeau à M. Simon Roy. Et aller jeter un petit œil à Ma fin du monde aux éditions Boréales. C'est un petit recueil très intéressant.
À lire et à relire.
C'est ça, qui pose les mêmes questions que Charles Aznavour, qui sera là quand j'y serai plus finalement.
129 pages, Ma fin du monde chez Boréal. Écrire pour rester vivant, c'est la phrase que vous avez lancée en début de chronique. Ouais. Et j'ajouterais lire pour rester vivant aussi.
Oui, exactement. Oui, oui, lire aussi.
Merci beaucoup Anne-Marie, c'était intéressant et émouvant.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.